Intraveineuse, Cheez a la solution pour toi. Les matins de semaine, de 8h à 9h30, l'équipe de l'Allongée t'aide à commencer la journée du bon pied. Informations, divertissement, météo et circulation, c'est le petit déjeuner parfait. L'Allongée, seulement sur les ondes de Cheez 94.3.
Votre festival déjanté préféré de retour du 10 au 18 février 2023. Cette année, le FOCOF reçoit en grand. Ce sont près de 100 artistes qui fouleront les scènes de la ville de Québec. Retrouvez entre autres Vanille, Velours Velours, Metz, Fudge, The Winston Band, Margaret Tractor, Jonathan Pearson, Feluca, Milankou, Mantis, You Do Right et bien plus encore du 10 au 18 février. Billets et informations au focoff.com.
Auditeurs, auditrices, bon vendredi. Ici Madame Desmeul, votre animatrice à la barre de Chérie J'arrive pour une autre édition de votre quotidienne culturelle locale. Il me fait très plaisir de vous accueillir dans ce retour à la maison, dernière journée de la semaine. Ce soir, on parle littérature avec deux auteuristes de moult éditions. Le lancement aura lieu ce soir chez Pantoute. Alors si vous êtes encore dans votre voiture, il ne sera pas trop tard pour changer votre trajet pour vous rendre en Basse-Ville. C'est en tout début d'émission qu'on s'entretient avec Tristan Février et Maude Trottier. Ensuite, Héloïse Léveillé-Chagnon, collaboratrice musicale à Radio-Canada, nous parle de ses coups de cœur de la semaine. C'est à 16h30 qu'on s'entretient avec elle. Pour terminer la portion d'émission avec Alex Télamarche, chroniqueur littéraire et en essai historique, ce sera le dernier à intervenir au micro aujourd'hui. Et toutes les nouveautés musicales de la journée vous seront présentées. Et laissez-moi vous dire, Ryan Anton. Vendredi, journée de sortie musicale. Et tout le monde s'est passé le mot pour faire ça aujourd'hui, le 27 janvier. On l'attendait après le retour des fêtes. C'était un peu plus tranquille. Mais là, vraiment, il y a de la nouveauté. Si vous avez des albums à acheter, je vous suggère toutefois d'attendre vendredi prochain parce que Bandcamp va offrir tous les profits des ventes aux artistes. C'est le premier vendredi du mois que ça se passe. Alors, 3 février, si vous voulez que tous vos bidous se rendent aux créateurs et aux créatrices. Le premier album dont je vais vous parler, c'est Club Wagon, c'est de Jean Doe, un artiste bien de Québec qui, après plus de 10 ans et près de 3 ans d'absence sur scène, lance aujourd'hui 11 nouvelles chansons. Morning Man jouait déjà sur nos ondes, de même que Weekender. Et c'est au Pantoum, le 18 mars prochain, que vous pourrez assister à ce lancement. À moins que vous préfériez le monter au ministère à Montréal en février, mais je vous recommande d'acheter des billets pour le Pantoum. La chanson d'aujourd'hui, avec laquelle je vous ferai découvrir ce tout nouvel album pour Jean Doe, c'est le titre « Voyageur » sur les ondes de Schiste 94.3.
Si tu insistes, je te dirai tout. J'ai laissé les peureux freiner nos ambitions. J'ai vu mourir trop de rêves au coin de la lumière rouge. On regarde le train passer et on le laissera toujours passer. Si ailleurs c'est juste ailleurs, partout il fera beau, sous le soleil, sous le cachot qu'on dit demain. Voyageur, quand dit demain, voyage. J'suis fatigué de me sentir mort, mordant à sein dans tout ce qu'on a, n'importe quand. Je t'emmène user nos bottes. Quand dit demain, voyage. Demain, voyageur. On regarde le train passer comme si nous étions autant bondés. Si ailleurs fait ton bonheur, partout elle fera beau, posé sur tes lèvres, sur un rafio. Quand dit demain, voyageur.
Vous entendiez Voyageurs de Jean Do sur les ondes de Schiz 94.3, l'une des 11 pièces de son album lancé aujourd'hui, Club Wagon. C'est au Pantoum que vous pourrez le voir le 18 mars prochain. Les billets sont déjà en vente sur lepointdevente.ca. Je suis particulièrement heureuse d'ouvrir l'émission en parlant de littérature aujourd'hui pour les auditoristes fidèles à Chérie J'arrive. Vous le savez, c'est mon dada. C'est de là que je viens. Alors, je suis bien heureuse de recevoir en studio Maude Trottier et Tristan Février. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Salut.
Aujourd'hui, on s'entretient enfin à propos du lancement de vos ouvrages respectifs. C'est chez Moult Éditions que c'est paru. À merveille, la violence pour toi, Tristan, et Sous le figuier pour Maude. Deux ouvrages qui paraissent dans la collection Cul de lampe, les premiers ouvrages de poésie dans cette collection-là. Et je le dis tout de suite pour les gens qui auront un intérêt, c'est à la librairie Pantoute de Saint-Roch, en formule 6 à 8, que vous pourrez assister au lancement ce soir. Maude, tu as une double posture à titre d'invitée aujourd'hui, parce que certes, tu es à la fois autrice et directrice de la collection Cul de lampe. Tu t'es toi-même dirigée pour Sous le figuier. Comment tu portes ce double chapeau-là?
Non, déjà, en fait, c'est une bonne question. Je ne me suis pas auto-éditée. Ça serait un peu prétentieux de ma part de le faire. C'est vrai que le livre paraît dans ma collection, mais le livre a été édité par Alain Larose, qui est un poète, en fait, et éditeur aussi, donc qui dirige la collection à Moult Criture. Mm-hmm. Et voilà, il a lu le livre, puis il m'a proposé de l'éditer dans la collection parce qu'il y avait comme une composante imagée, formel, en fait, qui correspondait à ma collection. Mm-hmm.
Pour les gens de Québec qui ne connaîtraient pas les éditions Moult, je vous rappelle que c'est une maison d'édition qui est ici, à Québec. C'est un OBNL, puis qui sélectionne des œuvres, comment je pourrais dire, pas en marge, mais qui il y a une forme de lutte quand même dans les œuvres publiées,
oui,
chez Moult.
Il y a une dimension très critique, très satirique. À l'origine, Moult, en fait, était la revue de la conspiration dépressionniste.
Voilà.
Puis ça s'est transformé en projet éditorial plus vaste, mais disons que toute la dimension, voilà, critique, satirique, drôle, grinçante, mm-hmm, présente dans la conspiration dépressionniste est aussi présente, en fait, dans le projet de la maison d'édition. Oui.
Voilà. C'est le cas notamment avec les ouvrages de Simon-Pierre Baudet qu'on a reçu au micro, mm-hmm, de même qu'il Vieille fille, et peut-être que vos ouvrages ne se tiendront pas trop loin de ces thèmes-là. Je commence d'abord avec toi, Tristan Février. Pas trop étranger à l'Université Laval, parce que c'est ici que tu as étudié en littérature, n'est-ce pas?
Oui, puis je suis encore là, je suis en train de faire ma maîtrise en création littéraire.
Toujours à l'université, alors.
Ah oui, encore.
on a eu des nouvelles de toi quand tu as fait une résidence de création à la Maison de la littérature, notamment, mais depuis ce temps-là, en fait, tu n'as pas cessé d'écrire, que ce soit avec le collectif La Fatigue. Tu t'impliques aussi avec le collectif autogéré d'impression Le Pieux. Mmh. Les auditoristes de Schiz devraient connaître tout ça. Mais on va commencer par parler de À merveille, la violence. Pourquoi la poésie, Tristan?
J'aime ça faire des associations de choses qui vont pas trop ensemble. Puis c'est comme un terreau fertile pour faire des trucs comme ça. Puis aussi pour aller comme directement à genre une idée ou une image. Plutôt que de comme l'enrober ou faire des... Moi, c'est plus des comme flashs d'idées qui me viennent, mm-hmm, ou de sensibilité.
Forme brève, donc.
Ouais.
Mm-hmm. Et À merveille la violence, j'imagine que ce ne sera pas nécessairement une valorisation de la violence si on s'éloigne du titre. De quoi sera question dans cette œuvre-là, Tristan?
Ça parle d'amertume, puis de joie, puis de communauté. Puis de comment est-ce qu'on continue à tenir aux liens qu'on a, comment on continue à essayer d'en faire des nouveaux avec les autres, puis comment est-ce qu'on lutte avec les monstres qui sont à l'intérieur de nous, puis qui sont autour de nous, puis qui nous poussent à nous désolidariser, nous délier des autres ou de nous-mêmes.
Sur le lien et les luttes, donc.
Ouais.
Puis je dirais peut-être pour faire le pont avec ce que tu disais avant, le rapport à moult. Pour certains, en fait, je sais que le rapport à moult apparaît peut-être un petit peu plus ténu, mais moi, cette question de la diversité, de la collectivité, en fait, je trouvais que c'était vraiment une des forces du livre de Tristan, puis je trouvais que c'est ce qui faisait le raccord au projet de moult. Mais c'est aussi tout le côté artisanal, en fait, du travail de Tristan au double sens, là, au sens de la poésie, du poétique, mais aussi dans ses projets de zine avec le collectif La Fatigue. Je trouvais qu'il y avait vraiment un arrimage, en fait, avec le côté, bon, chez moult, on privilégie l'artisanal, on est une OBNL, comme tu dis, on est une petite maison d'édition, on n'est pas très commercial, donc il y avait aussi tout ce côté-là qui s'arrimait bien à moult.
Oui, puis vous vous éloignez de la littérature comme produit de consommation aussi.
Exactement.
C'est vraiment pas ça l'idée.
Non.
Tristan, est-ce que À merveille la violence se distingue de ce que tu fais dans tes autres projets, notamment avec le collectif La Fatigue, où tu as l'impression que c'est cohérent, puis ça s'inscrit un peu dans une continuité avec tout ça?
C'est une belle question.
Oui, c'est une belle question. Ben, il y a une petite différence stylistique peut-être avec les autres trucs que moi j'ai écrits dans les projets de La Fatigue, mais je passe autant dans la manière de faire dans l'espèce de truc de... On se met sur un projet ensemble avec Maud ou avec Le Monde dans La Fatigue, puis on réfléchit à ça d'un bout à l'autre, puis il n'y a pas de différence entre le travail qu'on fait sur la forme matérielle du truc, puis la forme des mots, puis les formes verbales qu'on crée.
Maud, la collection Cul de lampe crée quand même un certain rapport entre texte et image. C'est une collection qui présente des œuvres un peu inclassables, j'ai envie de dire. Comment tu...
Ben, c'est gentil, merci. C'est pas comme inclassable que je qualifierais la collection.
Je te laisse
ça serait un peu prétentieux, mais l'idée de la collection, en fait, moi, je me suis joint à moult plus récemment que tout le monde, donc il y a à peu près 5-6 ans. Puis le premier projet sur lequel j'ai travaillé, c'était le Aria de laine de Meb, en fait, qui est un ensemble de poèmes soustraits dans le livre canonique de Louis Aymon, Maria Chapdelaine. Et donc le livre, en fait, a une dimension très visuelle, très plastique. On voit les ratures, elle arrache vraiment des mots, en fait, au texte. Et c'est un projet qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup séduit et qui m'a fait me rendre compte à quel point mon approche du livre était très textualiste. Alors que pourtant, moi, ma formation est liée en histoire de l'art, elle n'est pas en littérature, mais le livre, en fait, je le voyais vraiment comme un texte écrit par un auteur, ce qui est une façon très, très limitée de le voir. Et puis, ça a été aussi de découvrir tout le travail de moult. Donc, comme on disait tout à l'heure, moult est vraiment plutôt artisanal que commercial. Mm-hmm. Chaque livre a une maquette unique à moult, ce qui est quand même assez rare.
Ouais.
Et donc, moi, j'ai voulu continuer à travailler dans ce sens-là et j'ai proposé de faire une collection, donc, qui continue ce travail-là, mais qui le radicalise un peu. Et puis, l'idée de la collection, donc, c'était de travailler le livre comme un objet doté de matérialité, une possibilité de forme. Il y a toute une gamme, en fait, de choses à explorer quand on fait un livre. C'est pas juste un texte. Donc, et l'idée aussi, c'était de donner, en fait, aux auteurs la possibilité de s'emparer de leur propre maquette, en fait, de penser leur texte, non pas seulement comme texte, mais comme objet global, et puis de reconnecter le livre, en fait, à toute l'équipe que le livre sous-tend. Parce que le livre, évidemment, c'est un texte écrit par un auteur, mais c'est une graphiste, c'est un éditeur, c'est un imprimeur, tout ça. Donc, il y a toute une collectivité rattachée au livre. Donc, l'idée de la collection Cul de lampe, voilà, c'est ça.
Wow. Je suis séduite. Ce sont des valeurs qui me parlent et que vous incarnez bien, je pense. Tristan, quel genre de liberté t'as été content de pouvoir prendre avec justement la maquette, le fait de pouvoir réfléchir à toutes les étapes puis de faire ce travail d'équipe-là?
On a comme vraiment travaillé ensemble. Le truc, c'est la couverture, il y a un gros coquelicot, puis c'est écrit à la main. Puis,
oui, c'est Tristan qui a fait la couverture, c'est Tristan qui a pensé à la couverture. On avait eu des propositions, on n'était pas trop satisfaits, puis on t'encourageait en fait à vraiment penser le truc, puis il a proposé cette belle mise en page. C'est aussi... Pardon, je te coupe la parole.
Ah, vas-y, fort.
Mais tu le vends, c'est parfait.
mais c'est parce que tu as fait beaucoup de choses, en fait, dans ce livre-là, mais tu avais l'habitude aussi. Je veux juste aussi rectifier quelque chose que tu as dit. La collection existe depuis 2020. Mm-hmm. Il y a deux livres qui ont paru avant ces deux-là. Donc, Tristan, c'est le quatrième, c'est le dernier. Le mien, c'est le troisième. Avant, le premier livre de la collection, c'est Un an vu de chez elle, de Meb. Donc, j'ai poursuivi avec Meb. Et puis, le deuxième, c'est Caroline. Sanité de Caroline Bézil Normand, donc qui est une artiste que vous connaissez bien. Donc, je disais qu'il y a la couverture, mais c'est Tristan qui a fait toute la mise en page, en fait, des poèmes. Donc, le placement des poèmes sur la page qui est très, très réussi. Il y a comme tout un travail de mise en espace, de mise en texte qui est Tristan. Il y a des dessins.
Oui, cette portion-là, d'ailleurs. Les dessins sont venus après le texte. C'est quelque chose que tu as fait en parallèle?
En parallèle, oui. J'en ai peut-être fait un ou deux pour les rajouter, mais comme c'était pas mal au fur et à mesure de l'écriture, il y a des trucs qui seraient...
Ça fait partie de ta démarche de création en général ou c'est particulièrement pour Amerveille la violence que là, il y a des illustrations qui accompagnent tes textes?
En général, j'essaie d'ajouter des trucs à regarder. Là.
Donc, méthode de travail régulière pour toi, Tristan. Par contre, toi, Montretier, les illustrations dans Soulfigui ne viennent pas de toi. Tu as travaillé avec Cécile Rumpel en aquarelle. Comment donc s'est passé le travail d'équipe dans ce recueil de poèmes-là?
C'était très différent. En fait, le texte a été écrit avant de le soumettre à Cécile. Donc, le texte a été écrit. Et puis, au cœur du texte, en fait, il y a cette question. En fait, moi, si j'avais à dire quel est le sujet de mon livre, c'est un peu bizarre de parler comme ça d'un livre de poésie parce que ça aborde plein de choses, puis c'est des moods, puis c'est des feelings et tout. Oui. Mais c'est un poème narratif, c'est pas un recueil de poésie. Mmh. Donc, c'est un seul poème. Donc, il y a une dimension de récit. Puis c'est, je dirais, le récit d'un désir, en fait. Puis ce sur quoi j'avais envie de réfléchir, c'est comment, quand on désire quelqu'un, en fait, tout prend une sorte de valeur d'apparition. L'objet le plus banal devient quasiment épiphanique et tout. Donc, j'ai réfléchi à cette question de l'apparition. J'ai essayé de le faire de façon humoristique aussi, d'arrêter de prendre mon désir, en fait, si au sérieux. Mmh. Et puis, dans cette idée d'apparition, je me suis dit, ça serait vraiment bien d'avoir des images. Et j'aimais beaucoup le travail de Cécile, donc, qui est une artiste peintre basée à Montréal, qui fait son doctorat en recherche-création, qui travaille sur les liens entre l'environnement, le paysage et l'art. Donc, je connaissais ses peintures. C'est une amie aussi. Et ce que j'ai fait, c'est que je lui ai soumis le livre. Je lui ai dit, t'es pas obligé de rien, mais si ça te parle, s'il y a des choses qui te parlent, en fait, je t'inviterai à participer, voilà, au geste créatif. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est que elle a lu le livre et elle m'a indiqué les parties qui lui parlaient. Et puis, elle a finalement travaillé beaucoup autour d'un motif qui est le plissé, le drapé, le drap d'un lit, en fait. Donc, un motif qu'elle a, voilà, un peu... grossi comme ça qu'on voit bien.
C'est magnifique.
Donc c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Je voulais absolument pas qu'elle illustre quoi que ce soit. Je voulais vraiment qu'elle travaille à partir de ses propres impressions. Et ce que je trouve, les images donc sont des aquarelles, sont vraiment très très belles. Elles donnent une ambiance. Elle rajoute à l'ambiance onirique qui est déjà présente dans le texte. Donc ça habille énormément le texte. Et puis je trouve que ça, je m'y attendais pas, mais quand la façon dont on a placé les images, quand on parcourt, quand on lit le texte, les images arrivent, voilà, et elles font apparition. Donc, ça prolonge un peu cette réflexion sur l'apparition.
C'est vrai, ça semble... Enfin, c'est le thème central de Soulfigui, les apparitions.
Voilà.
Est-ce que c'est un projet qui mûrissait pour toi depuis longtemps?
Non, absolument pas. En fait, c'est un projet qui fait figure de... J'ai arrêté ma thèse de doctorat par la pandémie pour choisir, en fait, la poésie. Donc, c'était pas comme ça que c'était supposé de se passer. Donc, j'ai troqué le geste de connaissance vers un geste poétique. Créatif. Donc, ça a été plutôt comme un retournement.
Ouais. Wow! Ouais. J'avais envie d'applaudir, mais bon, je vous incite à poursuivre vos études.
Oui, il faut finir nos études si on est heureux de faire nos études.
Outre le fait que tu diriges la collection, est-ce que tu souhaites t'impliquer davantage dans le geste d'écrire? Est-ce que le côté créatif va peut-être prendre davantage de place dans ta vie, Montretier?
Oui, c'est sûr que... Ben, je dirais qu'il avait déjà une certaine place dans la mesure où j'écris des formes brèves. Là, c'est sûr que c'est un vrai livre, donc il y a quelque chose d'un peu inaugural. Et oui, certainement, il y en aura d'autres. Pas forcément de poésie. Il y a des gens qui s'identifient, en fait, comme poète. Mm-hmm. Moi, je m'identifie plutôt comme autrice ou écrivaine. Je ne tiens pas forcément à ce que ça soit de la poésie, mais oui, voilà. Absolument. Ouais.
Artiste littéraire, plutôt que camper dans un seul genre. Ouais. Tristan, Maud a parlé beaucoup de ta propre œuvre. Si tu avais des fleurs à lancer à Maud pour sous le figuier, je peux te donner un peu de temps d'antenne.
Mais moi, je suis son éditrice. C'est pas pareil.
L'éditrice est nécessairement satisfaite du travail de l'auteur.
Ben moi, ce qui m'impressionnait beaucoup, c'était le mélange entre plusieurs tonalités, qui est, genre en particulier celle que je pense qu'elle nomme là dans le livre, c'est l'espèce de vibe garce, mm-hmm. puis en même temps que ça se mélange avec quelque chose de contemplatif, puis de fougueux, fiévreux, puis en même temps vraiment comme distancé, puis capable de regarder les choses.
Ouais, puis je pense que c'est peut-être quelque chose... En fait, on en avait déjà parlé un peu, je crois, mais il me semble que c'est comme un trait en commun qu'ont nos deux livres, de travailler des sortes de tonalités affectives, de mood qui sont très contrastées. Tu sais, le livre de Tristan s'appelle « À merveille la violence ». Je veux dire, ça dit ce contraste-là, ça dit cette espèce... C'est un oxymore. Donc moi, je suis comme entre l'insolence et la mélancolie. Toi, t'es entre la joie et t'as parlé d'amertume tout à l'heure. J'ai trouvé ça intéressant. C'est la première fois que je t'entends dire ce mot-là. Mais oui, il y a ça dans nos deux livres. Je pense l'idée d'aller chercher des zones subtiles aussi. Mm-hmm. Tu sais, pas des espèces de grosses émotions, genre qu'on a plus la je sais pas, auxquelles on est plus habitué, finalement. Ouais.
C'est donc ce soir à la librairie Pantoute de Saint-Roch, donc à la succursale de la Basse-Ville, que vous pourrez assister au lancement à Québec.
Formule 6 à 8.
Ouais. Exactement. Lecture, dédicace, petite bouchée, peut-être?
Sûrement petite bouchée.
Du vin. Ah, non. Du vin, petite bouchée.
Petite gorgée,
pas, mais
alors.
Petite gorgée, voilà.
C'est sous le figuier de Maud Trottier, magnifiquement illustré avec les interprétations en images de Cécile Rome et À merveille la violence de Tristan Février. Merci pour vos berceuses corrosives. C'est comme ça qu'on pourrait présenter vos œuvres, je crois, à vous procurer chez Moult Éditions dans toutes les bonnes librairies.
Merci
beaucoup d'avoir
Merci.
Été là. On va poursuivre en musique avec Jeanne Côté qui lançait aujourd'hui son tout nouvel album Suite pour personne. C'est d'ailleurs la chanson éponyme que je vous offre sur les ondes de Chiz 94.3.
Et boire du café pour peut-être un début. Écouter de loin sans vouloir trouver.
Tu comprends pas maintenant.
venez d'entendre Thierry Larose avec le single du jour « Si tu comprends pas maintenant, tu comprendras peut-être jamais ». Une chanson avec l'un des titres le plus long. Thierry, je vais penser à toi chaque fois que je vais entrer ce titre-là dans mes feuilles de route après les émissions. C'est une chanson qui nous permettait d'annoncer la sortie d'un album en mars pour Thierry. On va l'attendre impatiemment, celui-là. On va en courte pause musicale après laquelle je vous présente d'autres chansons qui sont disponibles depuis aujourd'hui sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Après la pause, ma chérie, j'arrive.
Semaine, la semaine prochaine c'est good. Désolé, j'ai pas d'expat depuis un bout. J'ai quelques regrets, mais je reste debout.
Écoute locale avec Cheese 94.3.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Cheese 94.3.
À Conduite Antisportive, on garde les yeux sur le ballon, sur la balle et ça apoque.
À Conduite Antisportive, on attaque les ondes profondes.
L'émission est pas finie tant que c'est pas fini.
On vous promet 60 minutes vraiment intenses, sauf pendant la pub.
Conduite Antisportive, mardi et jeudi de 15h à 16h sur les ondes de Chiz 94.3.
Un matin de l'été 2018, je percute violemment une voiture en vélo. La conductrice était en colère, c'était légitime de sa part, j'étais responsable de l'accident. Mais dans l'élan d'angoisse, de colère puis de peur, on s'est accrochés l'un à l'autre. Deux inconnus, soudés, le temps d'une seconde infinie. Et si le chaos permettait de reconstruire le monde autrement? Je veux participer au chaos présenté du 17 janvier au 4 février au Théâtre Périscope.
On parle de changement climatique, mais parle-t-on assez de justice climatique? Dans la mire climatique, c'est trois passionnés de politique qui sont là pour décortiquer avec vous l'enjeu de notre génération sous un autre angle. Parce que la transition énergétique, c'est bien plus qu'une question de réduction des GES, c'est aussi une question de justice. Écoutez Dans la mire climatique tous les mardis de 11h30 à midi sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Nous sommes en ondes jusqu'à 17h30 pour vous faire entendre notamment les toutes nouvelles nouveautés musicales du jour. Dans les prochaines minutes, c'est Alex Télamarche qui se joindra à moi pour sa chronique littéraire. Mais avant, c'est de toutes nouvelles chansons que je vous fais entendre, notamment celle de Amy Jean. C'est Congratulations on your breakup sur les ondes de Chiz 94.3.
You and her, picture perfect, pretending you were happy. Faked a tear when you told me things just fell apart. You can't complain about all the red flags she was waving. I'm sorry that I don't feel bad. I've been dying to say congratulations.
Grinding my teeth till I can't. do you want me?
C'était Congratulations on your breakup de Imee Jean sur les ondes de Chiz 94.3. C'est un vendredi tout en nouveautés musicales. Je vous rappelle que vendredi prochain, c'est la journée où Bandcamp remettra tous ses profits aux artistes lorsque vous faites l'achat d'une chanson ou d'un album. Même chose pour la marchandise promotionnelle. Alors, pour les nouveautés du jour, si vous avez envie d'attendre une petite semaine, ça pourrait être avantageux pour les créateurs, les créatrices derrière les pièces que vous aimez. Cosmophone nous annonçait aujourd'hui une toute nouvelle chanson. C'est Planète que le groupe a rendu disponible et je vous l'offre à Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Vous venez d'entendre Planète avec, en fait, Cosmophone avec le titre Planète. Ça finit plus les nouveautés aujourd'hui, donnez-moi une chance. Et parmi les artistes qui ont offert de nouvelles chansons aujourd'hui, même si c'est un peu hors mandat chizien, on le souligne, notamment parce que Fouki sera au centre Vidéotron en avril, quelques jours avant Angèle. Attention, le rap keb envahit les grandes scènes. C'est le titre 80s que l'amateur de Spaghetti pain à l'ail a rendu disponible aujourd'hui. Et le voici donc, à Chérie, j'arrive.
Si je pouvais, je reculais. Je ferais un feat avec Marvin Gaye. Tout en portant un kiwi. Dans une BMW. Je go back dans les 80s pour une Walkman. Pour me balader avec mon Walkman. I wish que j'ai vécu dans les 80s. J'suis né dans les 90s. Rien ne va plus, na na na. Bring me back to the real life, yeah. Pas de COVID ni de blah blah blah. Life is good avec un bandana, baby, yeah, yeah. J'veux qu'on fasse un slow en rollerblade, yeah. Sur une chanson de Johnny Hallyday, yeah. J'veux qu'on se prenne en photo pour la ring. Baby, j'veux du old school love. Check-moi avec le swag disco. Shooté dans une Alfa Romeo. Pour un film avec Robert De Niro. J'retourne dans le passé, amigo. J'go back dans les 80s, adios. J'aurais voulu vivre dans les 80s. J'aurais voulu vivre dans les 80s. J'aurais voulu vivre dans les 80s, yeah. Bring back the old school shit. Bring back the old school shit. Bring back the old school shit. Bring me back to the world. Bring me back to the world. Bring me back to the world. Bring me back to the 80s, baby, please. Back to the world. Ce soir, c'est une soirée disco. J'ai une base fat comme du Crisco. Je vais apprendre à faire un only. Avec le swag de David Bowie. Tu changes de beef ou tu veux me test. Fais ton Rex sur ma Nintendo NES, yeah. Mais tu comprends pas what happened to us. Ouais, on a tous déjà fait partie du Breakfast Club, yeah. Mais ça, je me verrais bien en 82. I ride around a Ford Fiesta, yeah. I don't wanna go back to the future. Les voitures, ils volent même pas. Futur tour de complexe. On peut plus rien dire, on peut plus rien faire, man. À quoi sert mes connexions si je prends une dans le bled? Mais sans ma 80, tout était une merveille. Dans les années 80, tout était si bien. Air Max dans les pieds, tankant à la main. Souvent mes nouvelles, kick sur le Minitel. J'suis parti dans le passé parce que la vie était plus belle. J'aurais voulu vivre dans les 80s. J'aurais voulu vivre dans les 80s. J'aurais voulu vivre dans les 80s, yeah. Bring me back to the world. Bring me back to the world. Bring me back to the world. Bring me back to the 80s, baby, please. Back to the world. Dans les années 80. Bring me back to the world. Dans les années 80. Bring back the old school shit. Bring back the old school shit. Bring back the old school shit.
Avec 90s sur les ondes de Chiz 94.3. Une nouveauté du vendredi également. Aujourd'hui, vous ne devriez entendre que de nouvelles chansons sur les ondes de Chiz 94.3. Ben, entre 4 puis 5 et demi, là. Pas pendant le reste de la journée quand même, là. Je peux pas faire de promesses pour les autres émissions. Le grand rire éclatant que vous venez d'entendre, c'est Alex Télamarche qui vient d'arriver en studio. Bonjour, Alex.
Eh oui.
Alex, chroniqueur littéraire, tu t'intéresses surtout aux essais historiques.
Exact.
Et aujourd'hui, c'est l'histoire locale dont on va parler.
Oui, j'avais envie de parler de l'histoire de la grande région de Québec, puisque bon, on va parler de Québec, mais aussi de la Côte-du-Sud. Et on va aller effectivement vers un ouvrage qui est peut-être un peu plus national, mais de l'historien Jacques Lacourcière, qui a passé quand même une grande partie de sa carrière à Québec. Mm-hmm. Et pour commencer, eh bien, à tout seigneur, tout honneur, on commence en grand avec une image fort illustrée, Québec d'hier à aujourd'hui, de Patrice Laroche et Jean-Simon Gagné. Comme tu pouvais le voir juste avant qu'on entre en onde, c'est un ouvrage qui est superbe parce que richement illustré.
Et puis, j'aime ça parce que le slogan HIS, c'est « Écoute local ». Et puis là, c'est comme « Regarde local », la thématique de ton livre.
Tout à fait. En fait, vous connaissez peut-être ce livre sans le savoir. Si vous êtes un lecteur du Soleil, ou que ce soit dans sa version en ligne, ou que ce soit effectivement dans sa version papier, ou tout simplement si vous allez sur les médias sociaux, vous avez peut-être vu passer ces montages photos faits par Patrice Laroche et Jean-Simon Gagné. Le concept est toujours le même, concept fort simple. Eh bien, on prend une photo ancienne de Québec. Généralement, ça va être une photo prise entre à peu près 1890 puis 1960-70. Il y a des photos plus récentes et ça, c'est assez intéressant de voir comment des fois, entre 1990 et 2020, les choses peuvent avoir changé rapidement. Et on prend cette photo ancienne-là et Patrice Laroche, le photographe, va essayer de reprendre exactement la même photo, avec le même angle, avec la même luminosité.
C'est ça.
Et donc, il voit effectivement que le soleil est un soleil d'avant-midi. Il va essayer d'aller prendre sa photo à ce moment-là pour vraiment avoir un avant, un après. Quand on est en ligne, on peut vraiment glisser chacune des photos l'une sur l'autre puis de voir précisément où est-ce que c'est. Là, dans le cas du livre, on a vraiment la photo ancienne en haut, la photo récente en bas et sur la page de gauche, toujours un petit texte qui nous permet de lire la photo puis de dire, ben voici ce qui a changé, voici ce qui est resté le similaire. Et ben, telle image, telle publicité que vous voyez ou tel bâtiment que vous voyez, ben, c'est ceci.
C'est rare qu'un livre peut nous rejoindre autant. Là, je parle en tant qu'habitante de Québec. Ouais. Mais c'est particulier parce que ce sont des lieux que je reconnais, pour ainsi dire, pratiquement tous. Il y a des endroits qui sont plutôt semblables. Là. Je devrais dire que ça n'a presque pas bougé, alors que parfois la transformation est fulgurante. Puis c'est fascinant de voir à quel point la photo elle est bien reproduite dans l'angle, dans la lumière, comme tu le dis. Je trouve ça le fun qu'il y ait eu ce souci-là, même de respecter le moment de la journée où la photo a été prise. Là. C'est enfin une réplique bien réussie.
Oui, et parmi les choses qui ont beaucoup changé, un des éléments qui nous surprendra peut-être, c'est la présence des arbres à Québec. On a l'impression que, bon, on a beaucoup coupé d'arbres, on a beaucoup construit de bâtiments, que, bon, tranquillement, la ville s'est étendue. Et oui, c'est en partie vrai que les grands domaines agricoles qu'il y avait dans les alentours de Québec ont été rasés pour mettre des bungalows, mais il y a beaucoup plus d'arbres aujourd'hui qu'il y en avait au début du 20e siècle. Quand on regarde, par exemple, la rue Saint-Jean, c'est fascinant de voir à quel point, vis-à-vis de la bibliothèque Claire-Martin, c'est presque la même chose, mais une différence, il y a des grands arbres matures en 2023, alors qu'effectivement, au début du 20e siècle, il y a de petits arbres et ils sont beaucoup moins nombreux. Et c'est le cas, effectivement, de ce secteur-là, mais également de bon nombre d'autres secteurs. Oui, il reste du progrès à faire en termes de canopée au centre-ville, mais lorsqu'on se compare, on se console en voyant effectivement les photos.
C'est pas intuitif comme constat, c'est-à-dire qu'il y a plus d'arbres dans la ville qu'il y en avait. Mais en effet, c'était complètement rasé. Là, on construisait en se disant, bon, rapidement, le secteur est en évolution, on a besoin de bâtiments, puis tout était rasé. Mais effectivement, en image, c'est quelque chose qui se remarque quand même.
Oui, ben tu sais, comme par exemple cette vue de la rue Saint-Joseph que je te montre à l'instant. Eh bien, non, c'est de la rue Saint-Jean, on voit effectivement qu'il y a quelques arbres qui ont poussé alors qu'ils n'étaient pas présents en 1890. C'est la même chose, effectivement, sur d'autres photos. Parmi les autres choses également qui sont assez sympathiques à relever, c'est la présence du chemin de fer à Québec. Oui, effectivement, on a toujours une gare ferroviaire au centre-ville, la gare du Palais. Mais à l'époque, il y avait énormément de voies de chemin de fer autour de la gare, alors qu'aujourd'hui, bien, il y en a presque, je pense qu'il n'y en a plus qu'une qui vient au centre-ville. Donc, lorsqu'on regarde des photos de l'époque, on est capable de voir à quel point il y avait énormément de voies ferroviaires et que la gare du Palais était littéralement cernée par les voies ferrées, ce qui a changé entre-temps. Donc, c'est assez fascinant, effectivement, de voir à quel point ben, la gare est similaire, mais à quel point effectivement les choses ont changé autour. Ce montage va particulièrement probablement t'interpeller. C'est la rue Saint-Joseph et le mail Saint-Roch, parce qu'à une certaine époque, la rue Saint-Joseph avait été recouverte.
Wow.
Parce que bon, on s'était rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui partaient, qui ne fréquentaient plus les commerces du centre-ville à partir des années 1960-70. Et on s'était dit, les gens vont dans les centres d'achat, créeront un centre d'achat avec la rue Saint-Joseph en la recouvrant. Et les gens vont venir. Ce n'est malheureusement pas ce qui s'est produit. Parce que bon, ce que les gens voulaient, c'était oui, un centre d'achat, mais surtout du stationnement.
Ah,
et
voilà.
le charme, effectivement, discret de la banlieue qui, dans les années 1960-1980, est à son paroxysme. Et donc, finalement, ça n'a pas été une histoire de succès, mais de voir à quel point, effectivement, ben, la rue Saint-Joseph a changé au cours des dernières décennies. C'est particulièrement intéressant. Et ce ne sont que quelques exemples parmi d'autres. Ici, effectivement, on les voit, les voies ferroviaires dont je te parlais. Donc, tu vois, c'est ça, la gare du Palais. Nos auditeurs peuvent malheureusement pas voir, mais on vous invite à aller vous procurer l'ouvrage pour être capable de voir. Et les bâtiments de la SAAC, si je ne m'abuse, derrière,
oui.
Eh bien, à l'époque, en fait, ils n'étaient pas encore là. Ils étaient complètement des voies ferrées. Donc, il y a quand même des secteurs de la ville qui ont beaucoup changé.
Ouais.
D'autres qui sont restés presque similaire. Et c'est ça qui est intéressant dans l'ouvrage, c'est de voir ces avant-après et des fois aussi d'en apprendre sur des bâtiments qui sont toujours là ou sur des bâtiments qui ont disparu grâce au texte qui est à côté.
Et par rapport aux rails, ben c'est spécial. Celles du train ont quitté sur les photos. Puis si on reprenait les mêmes images dans quelques années, les rails du tramway vont apparaître. Donc, il y aura encore un nouveau changement dans les photos.
Il y a aussi effectivement des photos de la rue Saint-Louis où on voit que c'est pratiquement identique, mais à une différence près, il y a des rails de tramway à l'époque, alors qu'aujourd'hui ils ne sont plus là. Il n'y aura pas de rails de tramway sur la rue Saint-Louis dans les années à venir. Puis je serais surpris effectivement qu'on ramène le tramway intramuros dans la rue Saint-Louis, mais c'est assez fascinant effectivement de voir aussi la présence du tramway à Québec à l'époque et sa disparition aussi par la suite.
C'était donc Québec d'hier à aujourd'hui, un ouvrage qui présente les photos prises par le journal Le Soleil pour faire un comparatif des différentes rues et bâtiments de Québec. On passe à Un pays rebelle. C'est un ouvrage de Gaston Deschaines que tu nous présentes, également publié aux éditions du Septentrion.
Oui, aujourd'hui, c'est un triplé Septentrion qui est une maison d'édition en histoire que j'aime beaucoup. Un pays rebelle, eh bien, de quel pays parle-t-on? On parle de la côte du Sud. La côte du Sud, c'est cette région qui va grosso modo de Beaumont jusqu'au Kamouraska, donc sur la rive sud de Québec, un peu à l'est, à l'est de Lévis plutôt. Et c'est une région que connaît bien l'historien Gaston Deschaines, originaire de Saint-Jean-Port-Joli. Il a livré plusieurs livres dans sa carrière sur cette région, dont son fameux L'année des Anglais. L'année des Anglais, en fait, c'est l'année 1759.
Okay.
Une année où les Anglais vont effectivement arriver vis-à-vis Québec, vont se stationner à peu près à Lévis, vont bombarder la ville, vont tenter effectivement d'envahir Québec par du côté de la chute Montmorency avant la célèbre bataille des Plaines-Brames, vont échouer. Et pour se venger et pour s'assurer effectivement que la colonie ne se relève pas si jamais ils ne sont pas capables de conquérir Québec, ils vont brûler pratiquement toute la côte du Sud entre effectivement Beaumont et Kamouraska. Donc, un curé à l'époque avait tout simplement écrit ben, que c'est ça, pour décrire cette année-là, il n'y avait rien d'autre à dire que l'année des Anglais. C'est un livre qui a fait école, qui a été réédité à de nombreuses reprises et qui j'aurais envie de dire, est peut-être un peu un prélude au pays rebelle, puisque on se déplace une vingtaine d'années plus tard, lors de la guerre d'indépendance américaine. Après, effectivement, bon, la guerre de la conquête où la Nouvelle-France devient effectivement britannique, va arriver la guerre d'indépendance où les 13 colonies vont dire on veut effectivement se séparer de la couronne britannique et ils vont se tourner vers la 14e colonie, si je peux m'exprimer ainsi, la province of Québec, et dire ben, embarquez avec nous, devenez effectivement le 14e État américain. Et il va y avoir des gens qui vont être tentés de se joindre effectivement aux Américains et d'autres effectivement qui vont plutôt se mettre du côté de la couronne. Faut dire que la couronne va très tôt s'allier avec l'Église et va dire ben il faut que vous dites aux gens qui vont aller en enfer s'ils se mettent du côté des Américains. Et ben globalement, on a décrit que les Canadiens français avaient été très loyaux à la couronne et qui s'étaient rangés effectivement derrière les Britanniques parce que le clergé leur avait dit de le faire, mais il y a une région qui a été plutôt du côté des Américains.
Laquelle?
La côte du Sud.
Ouh.
Parce que justement, ben, on se rappelle qu'en 1759, elle y a goûté pas à peu près. Et donc, on peut supposer que c'est en partie les enfants des gens qui ont vécu ce moment-là particulièrement traumatique, qui sont sur la côte du Sud, qui ne veulent rien savoir des Britanniques, qui se mettent du côté des Américains et qui vont, dans certains cas, aider les Américains, les ravitailler, vont également, ben, dans certains cas, se battre avec eux, faire de l'espionnage pour le compte des Américains. Il y en a certains qui vont aller se battre tout simplement aux États-Unis par la suite. Et c'est ce que raconte Gaston Deschênes dans Un pays rebelle, la côte du Sud et la guerre de l'indépendance américaine.
La menace de l'enfer n'aura pas convaincu les gens de la côte du Sud, quoi.
Oui, et c'est particulièrement intéressant parce que dans le fond, si on se remet en contexte, 1775, eh bien, il y a deux armées américaines qui arrivent ici, l'armée du général Montgomery puis l'armée du général Arnold, et ils vont effectivement assiéger la ville de Québec, tenter effectivement de faire une attaque le 31 décembre 1775. Si je ne m'abuse, on disait que les soldats n'étaient plus payés à partir du début de 1776, et c'est pourquoi on aurait lancé l'attaque juste à ce moment-là. Je ne sais plus si c'est un mythe ou ça tient de la réalité, mais c'est quand même sympathique à soulever. Et finalement, c'est une défaite, mais les Américains vont assiéger la ville. Et finalement, la ville va être libérée en mai 1776 par des secours britanniques. Mais pendant ce temps-là, eh bien, on a tout plein effectivement de Canadiens français qui donnent un petit coup de main. Et aussi, ben, on avait tenté d'enrôler les Canadiens français à la base pour dire, ben là, vous allez nous aider à défendre la colonie. Les seigneurs qui sont majoritairement du côté des Britanniques, tentent de faire du recrutement. Gaston Deschênes raconte effectivement en septembre 1775, lorsque les seigneurs puis des hommes les plus influents arrivent à Lévis puis tentent de faire du recrutement, ben, résultat zéro. Et l'histoire voulait qu'il ait réussi à recruter énormément de gens, en fait 1000 personnes qui auraient marché avec eux jusqu'à à peu près à Saint-Georges-de-Beauce. Mais dans les faits, lorsque on scrute un peu plus les sources, ce que Gaston Deschênes nous révèle, c'est que non, ils n'ont pas recruté 1000 personnes pour défendre la couronne. C'est 1000 personnes qui ont ramené le seigneur de la Beauce, Gabriel Elzard Tachereau, chez lui en disant « Non, on veut pas défendre avec toi la couronne britannique. Retourne chez toi, puis nous, on veut pas. » Donc, c'est quand même assez sympathique des fois lorsqu'on prend le temps de réinterroger des sources ce qu'on est capable de révéler. Et c'est ce que Gaston Deschênes fait dans cet ouvrage-là. La Beauce, ça avait déjà été un petit peu documenté à quel point il était pas trop sympathique à la couronne puis était plutôt du côté des Américains. Mais la côte du Sud, on avait ici et là quelques petites histoires, anecdotes, notamment le cas de Clément Gosselin, un célèbre espion qui a espionné effectivement les Britanniques pour le compte du Congrès américain, qui est en contact avec George Washington, un personnage tout à fait fascinant et qui a fait l'objet d'une biographie dans le Dictionnaire biographique du Canada, mais qui n'avait jamais fait l'objet d'autant d'attention. Et Gaston Deschênes nous permet de découvrir ces espions, ces rebelles et effectivement tout ce conflit depuis la côte du Sud et de voir que nos ancêtres, il y en a certains qui acceptaient pas d'être sous la couronne britannique et auraient voulu devenir américains.
Des ancêtres plus rebelles qu'on pourrait le croire, quoi.
Tout à fait.
Ce qui nous amène au troisième et dernier ouvrage du jour, une histoire du Québec racontée par Jacques Lacourcière, ce grand du monde de l'histoire.
Exact. Jacques Lacourcière, comme on le sait, nous a quittés en 2021. Mais Jacques Lacourcière a donné le goût de l'histoire à toute une génération d'historiens.
Oh oui.
Et les éditions du Septentrion s'étaient dit sa petite histoire du Québec, c'est une des meilleures synthèses, à leur avis, de l'histoire québécoise. En à peu près 200 pages, on fait le tour des origines jusqu'à aujourd'hui, pratiquement. Et il s'était dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour remettre effectivement ce livre-là entre des mains, puisque c'est une excellente synthèse. Et ben aussi par le fait même, pour rendre hommage à Jacques Lacourcière. Mm-hmm. Résultat, cette réédition, une histoire du Québec racontée par Jacques Lacourcière, elle est précédée d'un hommage de l'historien Éric Bédard, qui nous raconte que son goût pour l'histoire, lui, est en partie venu du Boréal Express, ce journal d'histoire créé par Lacourcière, Vaugeois et d'autres complices. C'est ça, Éric Bédard raconte que chez lui, il y avait juste un vieux livre d'histoire d'un prêtre, si je ne m'abuse, qui n'était pas très, très intéressant, mais que lorsqu'il allait, en fait, passer sur un livre d'histoire de Gustave Lamarche, un clerc de Saint-Viateur, mais que lorsqu'il allait à l'école primaire, eh bien, il y avait à la bibliothèque le Boréal Express qui l'ouvrait avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de fascination. Il dit à l'époque, je préférais quand même le ballon chasseur, mais...
mais quand même, ça a semé quelque chose dans son esprit.
Le Boréal Express avait semé effectivement quelque chose. Donc, on a ce petit hommage en guise d'apéro. Et pour conclure, eh bien, on a un texte de Denis Vaugeois sur Jacques Lacourcière qui nous permet de relater un petit peu sa carrière. C'est un texte qui avait déjà été publié dans un ouvrage sur en hommage à Jacques Lacourcière, mais que je pense que c'est une bonne chose de republier. Parce qu'on découvre des fois, ce que j'aurais envie de dire, les hasards de l'histoire. Il y a des choses que tu dis. C'est fou comme la carrière de quelqu'un a pu tenir à peu de choses. Jacques Lacourcière, en fait, Denis Vaugeois, ben, ça a été un étudiant de Denis Vaugeois. Denis Vaugeois lui a donné des cours d'histoire. Et à l'époque, bon, c'était un bon étudiant, mais il n'était pas tant que ça intéressé par l'histoire. Et à un moment donné, Denis Vaugeois se ramasse invité chez lui parce qu'ils n'ont pas une grosse différence d'âge. Et il regarde sa bibliothèque puis il dit, ben voyons, il n'y a pas un livre d'histoire. Puis sa femme a dit, oui, il n'aime pas ça, l'histoire, puis tout. Et donc, c'est ça. Ça reste là, mais un peu plus tard, effectivement, Denis Vaugeois croise Jacques Lacourcière au Steinberg, une épicerie assez populaire à l'époque. Denis Vaugeois, sa femme est enceinte, il avait dit « Écoute, je m'occupe de cuisiner, mais bon, comme un bonhomme, un bon homme, non bonhomme, un homme, effectivement, de sa génération dans les années 1960, ben, c'est pas nécessairement intuitif de cuisiner, fait qu'il s'est retrouvé un peu pris au dépourvu, croise Jacques Lacourcière. Jacques Lacourcière lui dit « Écoute, moi, je me débrouille quand même pas pire avec des poêlons. Viens chez nous, je vais te donner un petit coup de main, effectivement, pour te montrer à cuisiner. » Et par la suite, Denis Vaugeois ben, l'a invité à faire de la recherche pour lui et à l'assister dans les recherches qu'il menait en archives. Et donc, c'est parce que Denis Vaugeois cherchait de l'aide pour cuisiner pour sa femme qu'il a eu l'occasion de croiser Jacques Lacourcière et que de l'initier au travail d'archives et que Jacques Lacourcière est devenu l'un des plus grands historiens de sa génération. C'est fou comme des fois, des espèces de petits hasards de la vie mènent à des éléments auxquels on pourrait pas croire.
Comme quoi la répartition de la charge mentale a plein de bons côtés, Alex.
Oui.
Ça donne parfois naissance à des carrières et à différentes passions.
Exact.
Eh bien, c'est un beau triptyque sur l'histoire locale que tu nous as présenté aujourd'hui. D'abord avec cet ouvrage du Soleil, Québec d'hier à aujourd'hui, les photographies qui nous présentent les images d'époque versus celles de nos jours. Un pays rebelle de Gaston Deschênes. On saura comment la Côte du Sud a fait la guerre de l'indépendance américaine. Et finalement, cette édition hommage à Jacques Lacourcière, c'est une histoire du Québec qui est racontée par lui avec des textes qui lui rendent hommage. Je suis contente que les éditions du Septentrion aient fait ça pour Jacques Lacourcière.
Et oui, et donc, on vous invite à les procurer en librairie. J'étais particulièrement enthousiaste en les recevant. Donc, le livre du Soleil est déjà en librairie, mais celui de Gaston Deschênes le sera à compter du 7 février. Et celui de Jacques Lacourcière le sera à compter du 14 février. On peut quand même se procurer l'ancienne édition, mais attendez d'ici le 14 février, ça vaut la peine d'avoir la nouvelle.
Attendons la nouvelle édition. Un gros merci, Alex. On met ça sur notre liste de souhaits. Et puis, je vais continuer de feuilleter l'ouvrage.
Je suis pas surpris.
Pendant la prochaine pause musicale, on s'en va entendre Jeanne Ménez. C'est le titre éphémère qu'elle a lancé tout juste aujourd'hui sur les ondes de Chiz 94.3.
Je pense que j'ai toujours eu le cœur à bonne place, mais j'avais besoin de quelque chose pour me remettre sur la traque. C'est pas une ponce de gin, ni de me défoncer la face. C'est un ami fidèle, un compagnon à quatre pattes. Le chien énorme et gentil, le chien énorme et gentil. Il est énorme et gentil, le chien énorme et gentil. Il est arrivé récemment dans ma vie. Ce n'est pas moi, mais c'est lui. Me choisit, il a de grandes oreilles pour écouter tous mes problèmes. Il ne sait pas parler ni me dire que je suis toujours le même. Oh, oh.
Toujours le même.
Oh, oh, oh.
que sûrement quelque chose a changé. J'ai fait des efforts tous les jours pour m'améliorer.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Laisser un garçon rentrer dans ma vie, même si ce n'est plus toi, même si on s'oublie. Laisser rentrer quelqu'un dans mon intimité, lui faire entendre mes rires et puis me consoler. Ce n'est pas rentrer dans ma vie pour y rester. Je te remercie d'être passé, de m'avoir un instant habillé de sourire, de tes caresses déclencher mes soupirs. Je veux qu'on m'aime un peu, je veux qu'on m'aime un temps, sans drame et sans finesse, je veux voir le printemps des amours qui ne durent pas toujours, pour mourir en été et renaître un beau jour. Si l'on doit s'y quitter, faisons-le sans tristesse, sans rancœur et sans fuir, une fois passé l'ivresse. Laissons-nous nous porter par le cycle des choses, sans que l'amour soit du peur et que l'on se l'impose. Si je dois me réveiller entre tes bras demain, et si sur un billet sont liés nos destins, je dois dire que je t'aime et que je t'admire, d'avoir bercé mon âme jusqu'à n'en plus finir. Et si même éphémère notre histoire part en vrille, tu auras su percer, rompre ma coquille d'un geste sec et tendre, dénouant nos destins. Je n'ai plus à attendre qu'on me prenne la main. Par le cycle des choses, sans que l'amour soit du peur et que l'on se l'impose. Je veux qu'on m'aime un peu, je veux qu'on m'aime un temps. Si le printemps est fini, je veux voir l'océan. L'océan des amours délaissés. Qui à force d'écume doucement échoué.
Vous venez d'entendre Éphémère de Jeanne Ménez sur les ondes de Schiste 94.3. C'était précédé de l'énorme, du chien énorme et gentil de Velours Velours. Je vais finir par dire ce titre-là comme du monde. Aujourd'hui à Chérie J'arrive, je vous présente des chansons qui sont parues aujourd'hui ou des albums complets, notamment celui de Sandrine Saint-Laurent, celle que je connais, qui est enfin disponible. Il y a déjà quelques-uns de ses singles que vous avez entendus sur nos ondes. C'est une collaboration entre Sandrine Saint-Laurent et Nicolas Lalonde que je vous offre. Voici Savane sur les ondes de Schiste 94.3.
Couché dans l'herbe, un même le ciel, rien ne semblait nous importer. Il y avait dans l'air un soupçon de sincérité. Nous nous étions dit je t'aime, tirer une balle au creux du cœur, sous le soleil ravageur. Nous avions perdu la tête un instant. Comme c'était doux, 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 doux.
Couché dans l'herbe, à même le ciel, rien ne semblait nous importer. Il y avait dans nos regards une aube de complicité. Nous nous étions dit je t'aime, tirer une balle au creux du cœur, sous le soleil ravageur. Nous avions perdu la tête pour un instant. Et comme c'était doux, 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 doux,
thank you.
c'était Entre les mains de février, une collaboration de Eika et de Antoine Lachance sur les ondes de Schiste 94.3. C'était une chanson qui est d'ailleurs parue aujourd'hui, en ce grand vendredi des nouveautés. Je vais sortir un petit peu des nouveautés pour vous faire entendre une chanson de Jonathan Person. Cet artiste fera d'ailleurs partie de la fabuleuse programmation du Fuck Off. C'est du 10 au 18 février que vous pourrez entendre plus d'une centaine d'artistes. C'est varié, que ce soit dans le volet vitrine ou dans le volet des spectacles. Je pense entre autres à Allô Fantôme, à Velours Velours, Fudge, La Dame Ovale, Lou Saint-Jeu, Mal-Aimé Soleil. Il y en a du monde pendant le Fuck Off. Renard Blanc, Violette Pie. Est-ce que je vous les nomme tous? Margaret Tracteur, faudrait que quelqu'un m'arrête. Mais je suis seule en studio. Mais bref, prenez votre passe rapido presto pour ce premier festival musical en février du 10 au 18. C'est le fabuleux Fuck Off qui commence. C'est le festival que j'attends avec le plus d'impatience cet hiver. Et Jonathan Person qui va performer durant le Fuck Off. Lui, son album est sorti quand même en août dernier, donc c'est pas exactement une nouveauté. C'est le titre Rock'n'Roll sur ton chemin que je vous offre. Question de vous donner un petit peu envie de participer au Fuck Off.
dors, petite fleur. Tu verras qu'au mois de janvier, il fait chaud quand on s'aime. C'est-tu la chance qui t'atteint, beauté que tu boiras, si t'es patient. Je sais, je te parle de la vie comme si j'étais une vendeuse de paradis, comme si j'en avais vécu plein. Je sais, parfois y a rien que des trous devant soi, pas moyen de faire un pas sans tomber dans la laideur et d'être enduit de peur. Peut-être ça t'arrivera, mais courage, petit ange, tu sauras que la vie en vaut la peine.
Venez d'entendre 10 janvier 2015. C'est une chanson qui est parue toutefois le 10 janvier 2023, donc pas nécessairement parmi les plus récentes nouveautés du jour, mais je vous en ai fait entendre beaucoup aujourd'hui là, parmi les artistes qui nous offraient de nouvelles pièces aujourd'hui. Thierry Larose, Marico, Yocto, Jeanne Ménez, Jean Do, Jeanne Côté. C'est vraiment une journée où tout le monde sort quelque chose, ou pratiquement. Il y a vraiment de la très très bonne musique à découvrir. La semaine dernière, on parlait surtout de Jalouse et de Madame Autruche. Et il y a aussi Oli Ferra qui, la semaine dernière, nous offrait une toute nouvelle chanson. Elle s'intitule Le Bouquet. Et c'est la dernière que j'aimerais vous faire entendre pour cette édition du vendredi de Chérie J'arrive.
Dans mon char, trois semaines après que t'aies cueilli le bouquet, ma chambre sent le velours et le fort relent de ce qu'on me dit. Trop
donc avec le bouquet de Oli Ferrat que se termine cette édition de Chérie, j'arrive. Merci d'avoir été à l'écoute sur les ondes de Chiz 94.3. Merci surtout à Maude Trottier et Tristan Février de s'être déplacés en studio. L'auteur et l'autrice seront ce soir à la librairie Pantoute de Saint-Roch pour le lancement de leur recueil Sous le figuier pour Maud Trottier et À merveille la violence pour Tristan Février. Deux ouvrages parus chez Moult Éditions que je vous recommande de vous procurer. Sinon, demain soir à l'Anti, on s'en va voir Philly et Louis-Charles en spectacle. J'espère vous y retrouver. Je vous souhaite un fantastique week-end culturel le plus si possible. Quant à nous, on se retrouvera lundi. C'était Madame Desmarais, votre animatrice de Chérie, j'arrive. Chérie, je suis arrivée.
Les matins sont